personne du singulier. Il disait « via, nous ». Aurélia Steiner n'a pas inventé la naissance de l'enfant à Auschwitz.
Il y a une parenté entre tes films en général dans cette proximité à l'eau, à la mer, à une ville traversée par l'eau ou en contact avec l'eau. Anne-Marie Streiter est de Venise, elle va à Calcutta, c'est dans la mer qu'elle se noie. À l'inverse, Aurélia est très lointaine, elle se définit par une immobilité tragique, un exil.
Elle est dans les camps de concentration, Aurélia Steiner. C'est là qu'elle vit. Les camps de concentration allemands, Auschwitz, Birkenau, étaient des lieux continentaux, étouffants. Très froids en hiver, brûlants en été, très loin à l'intérieur de l'Europe. Très loin de la mer. C'est là qu'elle se transporte pour écrire son histoire. C'est-à-dire celle des Juifs de tous les temps.
Et dessous, il y a les gens, par milliers, ils sont sortis de leur maison et ils ont recouvert la plage de leur corps allongé. On a entendu qu'ils disaient « Ah, le soleil, enfin, moi, il me faut le soleil, c'est la vie. » Et puis ils se sont tus. Et l'ennui est tombé sur la plage, celui de la fixité du beau temps à ces latitudes-là, celui de la disparition du mouvement dans ces ciels de passage, du passage des pluies. L'enfant qui se tait est parqué avec sa colonie dans un périmètre précis. Les hectares de sable ont été rendus aux adultes. C'est vrai, les enfants dérangent, on ne peut ni dormir, ni lire, ni parler quand il y a des enfants. Les enfants, c'est presque aussi terrible que la vie. Il était une fois, a dit la jeune monitrice, un petit garçon qui s'appelait David. Il était blond, il était sage, il était parti faire le tour du monde sur un grand bateau qu'on appelait l'Amiral System. Et voilà que la mer devient mauvaise, très mauvaise. Cette force de la mer, on ne la connaît pas bien, on commence seulement à la connaître. Jusqu'ici, les formes et les proportions des navires étaient calculées pour que l'homme puisse déjouer cette force, ne pas lui donner prise. Mais là, voici que la mer trouve enfin des proies à sa mesure. Si mauvaise était la mer, continue la monitrice, que l'amiral System coula, que tout périt. De l'amiral System et les gens et les biens, sauf lui, cette espèce de petit David. Et figurez-vous qu'un requin passe par là, qu'il le voit nageant et pleurant. Et allez voir ce qui se passe dans la tête de ce requin ce jour-là. Il dit à David, allez, monte sur mon dos, petit enfant, je vais te mener à une île déserte. Et les voilà partis tous les deux. Et le requin raconte à David qu'il connaît bien l'endroit parce qu'il fait la police pour le compte des bandes de harengs dans les ports de Long Island et de Nantucket et qu'il a vu des naufrages, qu'il en a vu. La monitrice raconte très lentement et très bien. Elle veut que les enfants restent tranquilles et les enfants, ils restent complètement tranquilles. Ratiketaboum est le nom du requin. Raké boum boum, répètent les enfants. L'enfant qui se tait, écoute-t-il l'histoire? On ne peut pas savoir sous quelle forme elle lui parvient. C'est un peu comme si c'était la première fois qu'il écoutait une histoire. Il ne bouge pas. Il regarde la monitrice. Mais dans ses yeux gris, on ne voit rien. Peut-être est-il dans l'insensibilité, si possible, que rien en lui ne réponde à l'histoire, qu'il n'a pas encore le loisir, le temps, oui, le temps, de se glisser hors de lui. C'est possible aussi. Le requin gronde David qui pleure. Il lui dit que ce n'est pas gentil de lui rappeler que c'est lui qui a avalé les passagers de l'amiral System, parmi lesquels père et mère de David. Alors David s'excuse auprès du requin et il retient ses larmes tandis que l'île apparaît au-dessus de la mer. C'est une île équatoriale comme un bouquet de palmes. Et maintenant, allez tous vous baigner, dit la monitrice, la suite au prochain numéro.
Les visages sont gommés. On ne voit que leur forme. La caméra les avale. Le fleuve les prend. Je crois qu'Aurélia est sur un pont à un moment donné. À gauche de l'image, il y a une silhouette de jeune fille avec de longs cheveux blonds. Le visage est comme les autres, effacé. Elle a une très belle forme, longue, mince. Aucun trait, mais un sourire alicéen. Du visage, on ne voit que ce sourire. Oui, je crois que c'est elle aussi. Aurélia. Elle ne le saura jamais. Elle est là ou ailleurs. Elle est cassée, disséminée dans le film. Et intégralement là en même temps. Elle est encore rue des Rosiers. D'abord là, puis ailleurs en même temps. Toujours là, puis toujours ailleurs ensuite. Ici comme ailleurs. Dans tous les Juifs. La première génération, c'est elle, comme la dernière. Elle écrit. Il y a déjà presque 40 ans. Elle n'aurait pas écrit en 45. Il faut que du temps passe sur l'horreur pour le faire. Elle est le chat lépreux aussi. Aurélia Steiner, ce juif, ce chat juif. D'ailleurs, on traversait un continent juif ces jours-là. Pendant ce voyage sur le fleuve du Nord, Aurélia appelle son amour disparu dans les charniers, les guerres, les crématoires, les terres équatoriales de la faim. On est exactement au centre d'une ville inconnue, traversée par le fleuve. Le fleuve drainait tous les morts juifs et les emportait. On parlait d'Aurélia partout. On entendait son nom murmurer sous les ponts. Elle était dans la mémoire de tous ces jours-là. Oui, le fleuve les emportait. Dans la barque funèbre, vers la fin singulière du fleuve. La dilution universelle de la mer.
Elle appelle au secours, Aurélia Steiner. Elle appelle à aimer tandis qu'elle se souvient. De partout, elle appelle. De partout, elle se souvient. Elle est à Melbourne, Paris, Vancouver. De partout où il y a des juifs dispersés, réfugiés, elle se souvient. Elle ne peut être que dans des lieux de cette sorte-là, où il ne se passe rien que la mémoire. Il ne se passe rien à Melbourne, à Vancouver, et ce sont des endroits éloignés, c'est loin de l'Europe. Je les vois comme des endroits de survie. C'est blanc, des pages blanches. Rien n'y arrive. L'ennui d'exister doit être incommensurable là-bas. Le recours doit être constant, à d'autres lieux, à d'autres temps. Il y a aussi des Juifs en Argentine, mais ils sont là depuis des siècles. En Espagne aussi. Il n'y a plus de juifs en Pologne. Il n'y en a plus en Allemagne. Dans un certain temps, il n'y en aura plus en Russie. Qu'est-ce que la judaïté représente dans une problématique personnelle d'un non-juif? Contre quoi est-elle ce recours absolu à nul autre pareil? À quoi répond-elle? Que confirme-t-elle?
C'est quelque chose qui a profondément à voir avec l'écriture. Cette phrase que dit Aurelia Steiner à la fin, « J'écris », son appel, ce n'est pas « j'appelle », mais « j'écris ».
Ça a à voir avec Dieu. L'écrit a à voir avec Dieu. Aurelia Steiner, 18 ans, dans l'oubli de Dieu, se pose en équivalence à Dieu face à elle-même.
À l'époque où j'ai eu fini le premier, Aurelia Melbourne, Pierre Goldman a été tué. Je me souviens, dans une interview du Monde, il a dit « Notre seule patrie, c'est l'écriture, c'est le verbe. » Et j'ai été confirmée dans ce que je vois. Cette patrie sans terre, sans nation, est la plus solide du monde, la plus indestructible. Peut-être la persécution des Juifs vient-elle aussi de là. On ne pouvait pas prendre leur terre, ils n'en avaient pas. Alors, faute de matériaux sur quoi s'acharner, on les tuait eux.
Prenons le nom de Steiner, puisque tu as parlé de Streiter. Il y a quelque chose qui rime aussi bien avec Lolvé Stein.
Oui. Anne-Marie Streiter. Les initiales, presque les mêmes.
Lolvé Stein, juive.
Oui, juive, je crois.
À l'école, on a pris une histoire d'un loir et d'un petit oiseau et son père et puis un lézard. Je peux la réciter ? Dors, mon petit loir, dors. Un petit loir qui dort, dîne et dort. Un petit loir qui dîne, dîne et dort. Voici l'hiver venu. Les petits rats tout nus nichent dans la farine. Dors, mon petit loir, dors. Un petit loir qui dort, dîne et dort. Un petit loir qui dîne, dîne et dort.
Tu préfères rester un enfant, toi, ou devenir un grand?
Un enfant, j'aime mieux.
Vous savez, ce matin, le temps était de nouveau resplendissant. Les plages se sont recouvertes de cerfs-volants, d'enfants, de familles éreintées par la vie, toujours triste, vous voyez, toujours. Les colonies de vacances ont traversé le tout, elles chantaient ce matin toujours cette indéchiffrable chanson. Et comme toujours, il y a d'autres enfants qui les ont suivis parce que rien de prime abord ne les distingue des orphelins et que les orphelins, de même que les enfants perdus, exercent sur les enfants pourvus de famille et d'amour l'attrait incomparable de l'abandon. Oui, il y avait là l'enfant aux yeux gris. Près de lui, la jeune fille. De temps en temps, elle ramassait des choses sur la plage et elle l'attendait. Et d'autres monitrices ont rassemblé tous les enfants, toujours en avance sur ces deux-là, et elle leur dit « Nous allons chanter ». L'enfant aux yeux gris s'est assis près de la jeune fille, et tout le monde a chanté, excepté l'enfant et la jeune fille. Les monitrices ont demandé à l'enfant de chanter avec les autres, il n'a pas répondu. Alors la jeune fille a dit que c'était parce qu'il ne pouvait pas chanter avec les autres. On ne comprenait pas ce que disait la jeune fille, mais on voulait que ce soit l'enfant qui réponde. Pourquoi tu ne veux pas chanter? Alors l'enfant a regardé ces gens qui l'interrogeaient, puis les autres enfants, comme s'il se réveillait tout à coup, et il était sans timidité, mais dans un étonnement un peu effrayé, et toujours dans cette légère crispation du visage. La profération des mots a déchiré l'immobilité des traits et il a dit
« Je ne veux pas chanter ».
On a hésité, On a dit à la jeune fille qu'elle protégeait trop cet enfant. Elle a répondu qu'elle ne le protégeait pas. On lui a dit que la singularité d'un enfant ne devait jamais être encouragée, mais au contraire mise à l'épreuve de la règle commune, qu'elle devait le savoir. La jeune fille a répondu qu'elle ne comprenait pas ce qu'on disait. On lui a dit de s'en aller avec l'enfant du moment que celui-ci se distinguait à ce point de ses camarades. Alors, ils sont partis, vous savez, de l'autre côté du môle, vers les collines d'argile et les rochers noirs. Et là, elle a chanté pour l'enfant qu'à la Clairefontaine, elle s'était promenée, que sur la plus haute branche, un rossignol le chantait, et que jamais, jamais, elle ne l'oublierait. Et l'enfant écoutait les paroles.
Silence. Ici, on pourrait parler aussi d'un amour célébré.
Je ne sais pas bien. Oui, sans doute.
Silence. Trouble. Voix modifiée. Qui aurait-elle été, celle de cet amour-là?
Je dirais, par exemple, une reine des déserts. Dans l'histoire officielle, c'est ce qu'elle est. La reine de la Samarie.
Et celui qui aurait gagné la guerre de la Samarie, celui qui aurait répondu.
Un général des légions romaines. Le chef de l'Empire.
Je crois que vous avez raison. Silence. Plus lourd, comme lointain.
On trouve les gens trop seuls dans la société actuelle. De le dire ainsi ne signifie rien, je crois. Il y a des gens invivables que tout le monde fuit parce que justement, ils ne sont pas doués de solitude. Des gens qui ne voient pas, n'entendent pas, meublent la vie à n'importe quel prix. Des gens épouvantés, isolés de par leur épouvante même à l'idée de la solitude de la vie. Leur épouvante nous épouvante à notre tour. Nous, si on parle de la solitude, on trouve que les gens sont à la fois trop seuls et pas assez seuls. La plupart des gens se marient pour sortir de la solitude. Vivre avec, manger avec, aller au cinéma avec. La solitude est brouillée, mais pas défaite. La garantie, le recours à l'autre toujours présent. Le couple des amants est le fait d'un instant. Il ne survit jamais au mariage. Le couple est chrétien dans toutes les sociétés occidentales, toujours. Mais l'illusion reste entière à chaque couple naissant qu'il sera l'exception à la règle. Aimer, c'est ça, le couple. La fin de l'aventure individuelle, de quelque ordre qu'elle soit. On ne peut rien faire du couple dans le couple qu'attendre que se dévide cette merveille, le temps de l'amour.
Temps. Silence. Il ne se regarde plus. Et puis il dit, pas un mot n'est resté des amants du temple. Pas une confidence, pas une image, n'est-ce pas?
Elle ne parlait pas le romain. Il ne parlait pas la langue de la Samarie. C'est dans cet enfer de silence que le désir est venu. Il a été souverain, sans appel. Et puis il s'est éteint.
On a dit qu'il s'agissait d'un amour bestial, cruel.
Moi je crois, oui, qu'il s'agissait de cela. D'un amour bestial, cruel. Je le crois comme s'il s'agissait de l'amour même.
Tant.
Le Sénat se renseigne et il le relaie, lui, le chef romain, dans cette corvée de lui apprendre sa décision de l'abandonner.
C'est lui qui le lui annonce.
Oui. C'est le soir. C'est très rapide. Il vient dans ses appartements et dans une brutalité inouïe, il lui annonce que le bateau viendra vite. Dans quelques jours, il lui dit, elle sera ramenée à Césarée. Il dit qu'il ne peut pas faire autrement que de lui rendre sa liberté. On aurait dit qu'il avait pleuré. Pour qu'elle vive, il dit aussi, il lui faut s'éloigner de lui. Il dit aussi qu'il ne la reverra jamais.
Elle ne comprend pas le Romain.
Non, mais elle voit qu'il pleure. Elle pleure parce qu'il pleure. De quoi elle pleure, il ne le sait pas.
Tant.
En même temps que je parle, que j'écris ces choses, je sais qu'elles ne vous importeront en rien à vous. L'autre, celui de notre séparation, si par hasard un jour vous lisez autre chose que L'Équipe et Le Parisien, par exemple, ces choses-là. Mais, voyez-vous, vous non plus maintenant, vous ne m'importez plus. On ne peut pas vivre des morts. Moi non plus, je n'entends plus votre silence enfermé comme celui de nos gouverneurs. Je vous ai abandonné depuis longtemps déjà, très longtemps. Je tiens le désespoir par vous provoqué dans la négligence. Il est devenu poussière illisible et stérile. Les gens qui sont affectés encore par votre irresponsabilité, votre malhonnêteté, je les vois atteints comme par une maladie saisonnière, mais qui passera. Oui, il en est de votre existence comme de celle de la fin du désir, cette effrayante échéance d'un désir qui meurt et qu'aucune force au monde, fût-elle gigantesque, ne peut faire vivre l'espace d'un regard. Mais, voyez-vous, je vous appelle cependant, je vous écris cependant, comme à 18 ans je l'aurais fait. De même, je vous appellerai, vous écrirai si vous étiez frappé de disparition ou de mort. On ne sait jamais au cours de l'histoire de votre classe. La distance qui nous sépare est justement celle de la mort. C'est une seule et même distance pour vous et pour moi. De la même façon que vous, vous voulez la garder pure entre nous, de la même façon, moi, je la recouvre de mes cris et de mes appels. Comme vous, je sais que cette distance est infranchissable, impossible à couvrir. La différence entre vous et moi, c'est que pour moi, cette impossibilité est un inconvénient négligeable. Alors voyez, nous sommes pareils. Nous nous tenons tous les deux pareillement dans nos cases respectives, dans nos territoires brûlés, incalculablement narcissiques, mais moi je crie vers les déserts, de préférence dans la direction des déserts.
Regardez-la, elle. Fermez les yeux. Vous voyez cet abandon ?
Oui, je le vois. Tant, elle dit.
Elle se livre d'elle-même au sort qui se propose. Elle veut bien être une reine. Elle veut bien être une captive. C'est selon ce que lui désire qu'elle soit.
D'où lui vient ce génie en elle caché ?
Peut-être de sa fonction royale ? Peut-être aussi d'une disposition qu'elle a, commune avec les femmes des évangiles, celles des vallées de Jérusalem, de pressentir la mort.
Comment a-t-il pu, à ce point, ignorer son désespoir ?
En le décidant, je crois. Vous savez, il n'y a rien dont il croit ne pas pouvoir disposer au nom de son royaume.
Silence. Il dit, derrière lui, depuis toujours, il y a la garde noire.
Oui, il ne la voit pas. Il ne voit plus rien. Il ne voit pas l'histoire qu'il vit. Ce qui reste en lui de la lande noire s'efface pour toujours au sortir de la chambre.
La lande noire ?
Oui.
Où était-elle ?
Partout, il me semble. Dans les plaines côtières des pays du Nord les plus lointains.
Il souffre ?
Il ne pleure pas. On ne sait pas. La nuit, il crie la nuit, comme lorsqu'enfant il avait peur.
Je vous en supplie, accordez-lui une certaine douleur.
Souvent, la douleur est insupportable lorsque de nuit il se réveille, la sachant là encore et encore pour un temps si court.
Celui qui les sépare de la venue du bateau qui doit la ramener à ses arrêts.
À ce moment de l'histoire, on ne voit plus que l'interminable ressassement de la phrase du prince. Un jour, un matin, un bateau viendra qui vous ramènera à Césarée, votre règne. Césaréa.
Silence.
On n'est personne dans la vie vécue, on est quelqu'un dans les livres. Et plus on est quelqu'un dans les livres, moins on est dans la vie vécue. Je me souviens d'années entières mortes. Quand j'ai fait l'Holstein, le vice-consul, des choses comme ça. J'étais absente. C'était un privilégié de n'être pas quelqu'un. C'est-à-dire être positivement personne.
Je me demande comment j'ai supporté tant de gentillesse, tant de sollicitude, d'affection profonde, de protection, tant d'apitoiement, tant d'endormissement, tant et tant de conseils. Comment je suis resté là avec eux, sans jamais fuir. Comment je ne suis pas morte. Toutes les vacances avec eux, le même homme, les mêmes hommes, tous les étés, les soirées d'été, avec eux, le même, les mêmes, l'amour, les voyages, le sommeil, la musique, pendant des années enfermées avec le même, les mêmes, la douleur, les infidélités suppliciantes sans lendemain, la surveillance, la douleur à hurler, silencieuse, et pourquoi ? Pourquoi ? Emmené à Venise, soigné, entouré pour que j'oublie la séparation. À moitié morte, emmené de force, adoré, j'ai mis l'an. Je ne peux supporter la séparation. Ils s'y mettent tous pour me dire qu'il le faut. Pourquoi ? Vie gâchée, avortée. Cette ligne droite de la vie de toutes les femmes. Ce silence de l'histoire des femmes, cet échec qui ferait croire à la réussite, cette réussite qui n'existe pas, qui est un désert.
C'était Les yeux verts, de Marguerite Duras. Texte réuni par Cécile Baquès, enregistré en public à l'hôtel Meynier de Salinelles le 9 juillet 2005 à l'occasion du festival Nîmes Culture. Avec Cécile Baquès, Axel Boguslavski, Michael Lonsdal. Les extraits de Marguerite Duras sont tirés du coffret INA Radio France Le ravissement de la parole, conçu par Jean-Marc Turine. Sonorisation, Alexandre Martin. Lumière, Stéphane Charrier. Régie Plateau, Guilhem Rater. Équipe de réalisation, Olivier Dupré, Catherine Dereté, Guy Senot, Guy Peramor, Christine Bernard-Sugy. Remerciements au Théâtre de Nîmes et à toute son équipe. Les yeux verts, Nîmes Culture, 2005.
Vous écoutez France Culture, vous pouvez retrouver Les yeux verts de Marguerite Duras sur l'application Radio France et franceculture.fr. En 1960, Marguerite Duras publie chez Gallimard le texte du scénario et les dialogues qu'elle a écrit pour le film d'Alain Resnais « Hiroshima, mon amour », suivi d'une trentaine de pages intitulées « Appendices ». Ces appendices sont constitués de quatre parties. Les évidences nocturnes, notes sur Nevers, Nevers pour mémoire, portrait du japonais et portrait de la française. C'est la première partie de ces appendices que nous allons entendre dans un instant. Les évidences nocturnes, notes sur Nevers, lues par Valérie Lang dans une réalisation de Jacques Taroni.
Les évidences nocturnes, notes sur Nevers. Sur l'image de la mort de l'Allemand, ils sont tous les deux à égalité en proie à cet événement, sa mort à lui. Il n'y a aucune colère ni chez l'un ni chez l'autre, il n'y a que le regret mortel de leur amour. Même douleur, même sang, même larmes. L'absurdité de la guerre, mise à nu, plane sur leur corps indistinct. On pourrait la croire morte, tellement elle se meurt de sa mort à lui. Il essaie de lui caresser la hanche, comme dans l'amour, il le lui faisait, il n'y arrive plus. On dirait qu'elle l'aide à mourir, elle ne pense pas à elle, mais seulement à lui. Et que lui la console, s'excuse presque d'avoir à la faire souffrir, d'avoir à mourir. Quand elle est seule, à cet endroit même où ils étaient tout à l'heure, la douleur n'a pas encore pris place dans sa vie. Elle est simplement dans un indicible étonnement de se retrouver seule. Sur l'image du jardin duquel on a tiré sur l'Allemand. On a tiré de ce jardin comme on aurait tiré d'un autre jardin de Nevers. De tous les autres jardins de Nevers, seul le hasard a fait que ce soit de celui-ci. Ce jardin est désormais marqué au signe de la banalité de sa mort. Sa couleur et sa forme sont désormais fatidiques. C'est de là que sa mort est partie, éternellement. Un soldat allemand traverse une place de province pendant la guerre. Quelque part en France, vers la fin de l'après-midi, un certain jour, un soldat allemand traverse une place de province. Même la guerre est quotidienne. Le soldat allemand traverse la place comme une cible tranquille. Nous sommes dans le fond de la guerre, le moment où l'on désespère de son issue. Les gens ne prennent plus garde aux ennemis. L'habitude de la guerre s'est installée. La place du Champ de Mars reflète une désespérance tranquille. Le soldat allemand la ressent aussi. On ne parle pas assez de l'ennui de la guerre. Dans cet ennui, des femmes derrière des volets clos regardent l'ennemi qui marche sur la place. Ici, l'aventure se limite au patriotisme. L'autre aventure doit être étranglée. On regarde, n'empêche, rien à faire contre le regard. Sur les images des rencontres entre Riva et le soldat allemand. Nous nous sommes embrassés derrière les remparts, la mort dans l'âme, mais dans un irrépressible bonheur, j'ai embrassé mon ennemi. Les remparts étaient toujours déserts pendant la guerre, des Français y furent fusillés pendant la guerre et après la guerre des Allemands. J'ai découvert ses mains quand elles touchaient des barrières pour les ouvrir devant moi. Ses mains me donnèrent très vite l'envie de les punir. Je mords ses mains après l'amour. C'est dans les murs de la ville que je suis devenue sa femme. Je ne peux pas encore me souvenir de la porte du fond du jardin. Il m'attendait, là, des heures parfois, la nuit surtout, chaque fois qu'un instant de liberté m'était donné. Il avait peur. J'avais peur. Quand il fallait traverser la ville ensemble, je marchais devant lui, dans la peur. Les gens baissaient les yeux. Nous crûmes à leur indifférence. On a commencé à devenir imprudents. Je lui demandais de traverser la place derrière la grille de « afin qu'une fois je puisse l'apercevoir dans le jour ». Il passait donc chaque jour devant cette grille, les yeux baissés, il se laissait regarder par moi. Dans les ruines, l'hiver, le vent tourne sur lui-même, le froid. Ses lèvres étaient froides. Nevers, où je suis née, dans mon souvenir, est indistinct de moi-même. C'est une ville dont un enfant peut faire le tour. Délimitée d'une part par la Loire, d'autre part par les remparts. Au-delà des remparts, il y a la forêt. Nevers peut être mesuré au pas d'un enfant. Nevers se passe entre les remparts, le fleuve, la forêt, la campagne. Les remparts sont imposants. Le fleuve est le plus large de France, le plus renommé, le plus beau. Nevers est donc délimité comme une capitale. Quand j'étais une petite fille et que j'en faisais le tour, je la croyais immense. Son ombre dans la Loire tremblait, l'agrandissant encore. Cette illusion sur l'immensité de Nevers, je l'ai gardée longtemps, jusqu'au moment où j'ai atteint l'âge d'une jeune fille. Alors Nevers s'est fermée sur elle-même. Elle a grandi comme on grandit. Je ne savais rien des autres villes. J'avais besoin d'une ville à la taille de l'amour même. Je l'ai trouvée dans Nevers même. Dire de Nevers qu'elle est une petite ville est une erreur du cœur et de l'esprit. Nevers fut immense pour moi. Le blé est à ses portes, la forêt est à ses fenêtres, la nuit des chouettes en arrive jusque dans les jardins. Aussi faut-il s'y défendre d'y avoir peur. L'amour y est surveillé comme nulle part ailleurs. Des gens seuls y attendent leur mort. Aucune autre aventure que celle-là ne pourra faire dévier leur attente. Dans ces rues tortueuses se vit donc la ligne droite de l'attente de la mort. L'amour y est impardonnable. La faute à Nevers est d'amour. Le crime à Nevers est le bonheur. L'ennui y est une vertu tolérée. Des fous circulent dans ces faubourgs, des bohémiens, des chiens et l'amour. Dire du mal de Nevers serait également une erreur de l'esprit et du cœur. Un soldat allemand vient de se faire panser la main dans la pharmacie du père de Riva. Dans ce plein été, je portais des chandails noirs. Les étés sont froids à Nevers. Été de la guerre. Mon père s'ennuie, les rayonnages sont vides. J'obéis à mon père comme une enfant. Sa main brûlée, je la regarde. Je lui fais mal en lui faisant son pansement. Le temps de lever les yeux, je vois ses yeux. Ils sont clairs. Il rit parce que je lui fais mal. Je ne ris pas. Seul, dans ma chambre à minuit, la mère de la place du Champ de Mars bat toujours derrière mes volets. Il a dû encore passer ce soir. Je n'ai pas ouvert mes volets. Je devins sa femme dans le crépuscule, le bonheur et la honte. Quand ça a été fait, la nuit était venue sur nous. Nous ne nous en étions pas aperçus. La honte avait disparu de ma vie. Nous avons été joyeux de voir la nuit. J'avais toujours eu peur de la nuit. Celle-là était une nuit noire comme jamais je n'en ai vu depuis. Ma patrie, ma ville, mon père ivre s'y trouvèrent noyés, avec l'occupation allemande, dans le même sac. Nuit noire de la certitude. On la regardait avec attention et ensuite avec gravité. Puis une à une, des montagnes sont montées à l'horizon. L'amour sert à mourir plus commodément à la vie. Ce jardin pourrait faire croire en Dieu. Cet homme, ivre de liberté, avec sa carabine, cet inconnu de la fin de juillet 44, cet homme de Nevers, mon frère, comment aurait-il pu savoir? Riva ne parle plus elle-même quand cette image apparaît. Donner un signe extérieur de sa douleur serait dégrader cette douleur. Elle vient seulement de le découvrir, mourant sur le quai, dans le soleil. C'est pour nous autres que l'image est insupportable. Pas pour Riva. Riva a cessé de nous parler. Elle a cessé, tout simplement. Il vit encore, Riva, sur lui, et dans l'absolu de la douleur. Elle est dans la folie. La voir lui sourire à ce moment-là serait même logique. La douleur a son obscénité. Riva est obscène, comme une folle. Son entendement a disparu. C'était son premier amour. C'était sa première douleur. Nous pouvons à peine regarder Riva dans cet état. Nous pouvons rien faire pour elle. Qu'attendre? Attendre que la douleur prenne en elle une forme reconnaissable et décente. Fresson meurt. Il est comme lié au sol. Il a été pris de plein fouet par la mort. Son sang coule de lui comme le fleuve et comme le temps, comme sa sueur. Il meurt comme un cheval avec une force insoupçonnable. Il est très occupé à cela. Puis une douceur interviendra avec sa venue à elle et la certitude de l'inutilité de lutter contre sa mort. Douceur des yeux de Fresson. Il se sourit. Oui, tu vois mon amour, même cela nous était possible. Triomphe funèbre, accomplissement. Je suis sûre de ne pas pouvoir te survivre, à ce point que je te souris. Le soleil fut, ce jour-là, glorieux. Mais comme chaque jour, cependant, le crépuscule est arrivé. Ce qui reste de Riva, sur ce quai, se réduit au battement de son cœur. Il a plu vers les heures de fin de l'après-midi. Il a plu sur Riva, comme il a plu sur la ville. Puis, la pluie a cessé. Puis, Riva a été tondue. Et il reste, sur le quai, la place sèche de Riva, place brûlée. Sur ce quai, on dirait qu'elle dort. Elle est à peine reconnaissable. Des bêtes passent sur ses mains salies par le sang. Chien ? Riva ne parle pas encore. L'été continue impunément. La France entière est en fête, dans le désordre et la joie. Les fleuves, eux aussi, coulent toujours impunément. La Loire. Les yeux de Riva, comme la Loire, coulent, mais ordonnés par la douleur dans ce désordre. La cave est petite, comme elle pourrait être grande. Riva crie, comme elle pourrait se taire. Elle ne sait pas qu'elle crie. On la punit pour lui apprendre qu'elle crie, comme une sourde. Il faut qu'on lui apprenne à entendre quand elle crie. On lui a raconté ça après. Elle s'écorche les mains, comme une imbécile. Les oiseaux, lâchés dans les chambres, se rognent les ailes et ne sentent rien. Riva se fait saigner les doigts et mange son sang ensuite. Fait la grimace et recommence. Elle a appris un jour sur un quai à aimer le sang, comme une bête, une salope. Il faut bien regarder quelque chose. Riva n'est pas aveugle. Elle regarde. Elle ne voit rien. Mais elle regarde. Les pieds des gens se laissent regarder. Les gens qui passent, passent dans un univers nécessaire, le vôtre et le mien, dans une durée qui nous est familière. Le regard de Riva sur les pieds de ces gens, aussi significatif que leur visage, se passe dans un univers organique, déserté par la raison. Elle regarde un monde de pieds. Le père de Riva. Le père est fatigué par la guerre. Il n'est pas méchant. Il est abruti par ce qui lui arrive et qu'il n'a pas voulu. Il est habillé en noir. La mère de Riva. La mère est vive, bien plus jeune que le père. Ce qu'elle aime le plus au monde, c'est son enfant. Quand Riva crie, elle s'affole pour elle. La mère a peur que l'on fasse encore du mal à son enfant. Elle tient toute la maison dans ses mains. Elle est forte. Elle ne veut pas que Riva meure. Elle est avec son enfant d'une tendresse brutale, mais d'une tendresse sans limite. Contrairement au père, elle ne désespère pas de Riva. Ils la descendent dans la cave comme si elle avait 10 ans. Ils sont en noir. Riva, au milieu des deux, est habillée en clair. Chemise de nuit en dentelle, de très jeune fille, faite par la mère, par une mère qui oublie toujours que son enfant grandit. Riva dans la cave de Nevers et dans sa chambre d'enfant. Riva est dans un coin de la cave, toute blanche, là comme ailleurs toujours. Toujours des yeux de Loire, ceux du quai. Innocenté. Enfance terrifiante. C'est la nuit que sa raison revient. Qu'elle se souvient qu'elle est la femme d'un homme. Elle aussi, le désir l'a frappée de plein fouet. Qu'il soit mort n'empêche qu'elle le désire. Elle n'en peut plus d'avoir envie de lui. Mort. Corps vidé, haletant. Sa bouche est humide. Elle a la pose d'une femme dans le désir, impudique jusqu'à la vulgarité. Plus impudique que partout ailleurs. Dégoûtante. Elle désire un mort. Riva touche les objets de sa chambre. N'importe quoi peut être vu par Riva dans cet état. Tout un ensemble d'objets, ou ceux-ci pris séparément, peu importe, tout sera vu par elle. Riva lèche le salpêtre de la cave. Faute d'autre chose, le salpêtre se mange. Celle de pierre, Riva mange les murs. Elle les embrasse aussi. Elle est dans un univers de murs. Le souvenir d'un homme est dans ses murs, intégré à la pierre, à l'air, à la terre. Un chat entre dans la cave de Nevers. Le chat, toujours égal à lui-même, entre dans la cave. Il s'attend à tout. Riva a oublié l'existence des chats. Les chats sont domestiqués complètement. Leur conduite est de gentillesse. Leurs yeux ne sont pas domestiqués. Les yeux du chat et les yeux de Riva se ressemblent et se regardent. Vidé. Presque impossible de soutenir le regard d'un chat. Riva le peut. Elle entre peu à peu dans le regard du chat. Il n'y a plus dans la cave qu'un seul regard, celui du chat Riva. L'éternité échappe à toute qualification. Ce n'est ni beau, ni laid. Ça peut être un caillou, l'angle brillant d'un objet, le regard du chat, tout à la fois. Le chat qui dort, Riva qui dort, le chat qui veille, l'intérieur du regard du chat ou l'intérieur du regard de Riva, pupilles circulaires où rien n'accroche, immenses ces pupilles, des cirques vides où bat le temps. La place de Nevers vue par Riva. La place continue. Où vont ces gens? Ils ont leur raison. Les roues des bicyclettes ressemblent à des soleils. Ce qui remue se regarde mieux que ce qui ne remue pas. Roues de bicyclette, les pieds, tout remue sur place. Parfois, c'est la mer. C'est même assez régulièrement la mer. Plus tard, elle saura que c'est l'aurore, ce qu'elle prend pour la mer. Ça lui donne sommeil. L'aurore, la mer... Du moment qu'elle n'est pas morte, ses cheveux repoussent, entêtement de la vie. De nuit, de jour, ses cheveux poussent sous le foulard en douce. Je caresse ma tête doucement. C'est meilleur à toucher. Ça ne pique plus les doigts. La tonte de Riva à Nevers. Ils la tondent. Ils le font dans la distraction presque. Il fallait la tondre. Faisons-le. Mais on a bien autre chose à faire ailleurs. Cependant, on fait notre devoir. L'endroit est parcouru par le vent chaud qui arrive de la place. Pourtant, on n'y a plus frais qu'ailleurs. La fille qui est tondue, c'est la fille du pharmacien. Elle tend presque sa tête au ciseau. Elle aide presque à l'opération comme un automatisme acquis, déjà. Ça fait du bien à la tête d'être tondue. Ça la rend plus légère. Elle est pleine de cheveux tombés sur elle. On tond quelqu'un quelque part en France. Ici, c'est la fille du pharmacien. La Marseillaise arrive avec le vent du soir, jusque dans la galerie et encourage à l'exercice d'une justice hâtive et imbécile. Ils n'ont pas le temps d'être intelligents. La galerie est un théâtre où rien ne se joue. Rien. Quelque chose aurait pu se jouer, mais la représentation n'a pas eu lieu. Une fois tondue, la fille attend. Encore, elle est à leur disposition. Du mal a été fait dans la ville. Ça fait du bien. Ça donne faim. Il faut que cette fille s'en aille. C'est laid, c'est peut-être dégoûtant. Comme elle a l'air de vouloir rester en ce lieu, il faut la chasser. On la chasse comme un rat, mais elle ne peut pas monter l'escalier très vite, aussi vite qu'on le désirerait. On dirait qu'elle a devant elle un temps énorme. On dirait qu'elle s'attendait encore à autre chose qui n'a pas eu lieu. Qu'elle est presque déçue de devoir encore remuer, avancer les jambes, se déplacer. Elle trouve que la rampe est faite pour s'aider à faire cela. Portrait de Riva, recommencement de sa raison. Elle tourne en rond, du temps a passé. Sa folie est maintenant remuante, il lui faut bouger. Elle tourne en rond, le cercle se ferme mais il va éclater. C'est le dernier temps. Le visage de Riva est comme plâtré, ce visage n'a pas servi depuis des mois. Les lèvres sont devenues minces, le regard peut maigrir, le corps ne plus rien signifier. Le corps de Riva, quand elle tourne, ne sert plus qu'à porter sa tête. Elle l'appelle encore, mais lentement, et à des intervalles très longs. Souvenir du souvenir. Le corps est sale, inhabité. Elle va être libre, ça va y être. Le cercle va éclater. Elle détruit un ordre imaginaire, renverse des objets, les regarde à l'envers. Quand elle regarde les angles bas de la chambre et qu'elle reconnaît quelque chose, ses lèvres tremblent. Elle sourit ou elle pleure. Même chose. Elle écoute. On dirait qu'elle prépare un sale coup. Mais non. Elle écoute seulement les cloches de Saint-Étienne. Consommation complète de la douleur. Elle écoute le bruit de la ville, puis tourne de nouveau sur elle-même. Tout à coup, elle s'étire. La raison qui lui revient effraie. Elle chasse avec ses pieds. Quoi ? Des ombres. Riva arrive sur le quai de la Loire, à midi. Riva arrive en haut de l'escalier du quai comme une fleur. Jupe ronde et courte, naissance des cuisses et des seins. Sortie de Riva à l'aurore sur les quais de la Loire. On me laisse sortir. Je suis très fatiguée, trop jeune pour souffrir, dit-on. Il fait doux, dit-on. 8 mois déjà, dit-on. Mes cheveux sont longs, personne ne passe, je n'ai plus peur, voilà. Je ne sais pas à quoi je m'apprête. Ma mère surveille ma santé à cet effet. Je surveille ma santé. Il ne faut pas trop regarder la Loire, dit-on. Je la regarderai. Des gens passent sur le pont, la banalité frappante parfois. C'est la paix, dit-on. Ce sont ces gens qui m'ont tondu. Personne ne m'a tondu. C'est la Loire qui me prend les yeux. Je la regarde et je n'arrive plus à les retirer de l'eau. Je ne pense à rien, à rien. Quel ordre. Riva rentre à Paris, de nuit. Quel ordre. Il me faut partir. Je pars, dans un ordre revenu. Rien d'autre ne peut m'arriver que d'exister. D'accord. La nuit est bonne, je quitte la Loire. La Loire est au bout de chaque route encore. Patience. La Loire disparaîtra de ma vie. À 7h du soir, la cathédrale Saint-Lazare sonnait l'heure. La pharmacie fermait. Élevée dans la guerre, je ne prenais pas tellement garde à celle-ci, malgré mon père qui m'en entretenait chaque soir. J'aidais mon père dans la pharmacie. J'étais préparatrice. Je venais de finir mes études. Ma mère vivait dans un département du Sud. Je la retrouvais plusieurs fois par an aux vacances. À 7h du soir, été comme hiver, dans la nuit noire de l'occupation ou dans les journées ensoleillées de juin, la pharmacie fermait. C'était toujours trop tôt pour moi. Nous montions dans les pièces du premier étage. Tous les films étaient allemands, ou presque. Le cinéma m'était interdit. Le Champ de Mars, sous les fenêtres de ma chambre, la nuit, s'agrandissait encore. L'hôtel de ville était sans drapeau. Il fallait que je me rappelle ma petite enfance pour me souvenir de lampadaires allumés. La ligne de démarcation fut franchie. L'ennemi arriva. Des hommes allemands traversaient la place du Champ de Mars en chantant à heure fixe. Parfois l'un d'eux venait à la pharmacie. Le couvre-feu arriva aussi. Puis Stalingrad, le long des remparts, des hommes furent fusillés. D'autres hommes furent déportés, d'autres s'enfuirent pour rejoindre la résistance. Certains restèrent là, dans l'épouvante et la richesse. Le marché noir battit son plein. Les enfants du faubourg ouvrier crevaient de faim, tandis qu'au grand cerf, on mangeait du foie gras. Mon père donnait des médicaments aux enfants des faubourgs. Je les leur portais 2 fois par semaine, en allant prendre ma leçon de piano, une fois la pharmacie fermée. Quelquefois, je rentrais en retard. Mon père me guettait derrière les volets. Parfois, le soir, mon père me demandait de lui jouer du piano. Après que j'ai joué, mon père devenait silencieux et son désespoir s'affirmait encore. Il pensait à ma mère. Après que j'ai joué, le soir, ainsi, dans l'épouvante de l'ennemi, ma jeunesse me sautait à la gorge. Je n'en disais rien à mon père, il me disait que j'étais sa seule consolation. Les seuls hommes de la ville étaient allemands. J'avais 17 ans. La guerre était interminable. Ma jeunesse était interminable. Je n'arrivais à sortir ni de la guerre, ni de ma jeunesse. Les morales d'ordre divers brouillaient mon esprit déjà. Le dimanche était pour moi jour de fête. Je dévalais toute la ville à bicyclette pour aller à Aisy chercher le beurre nécessaire à ma croissance. Je longeais la Nièvre. Parfois, je m'arrêtais sous un arbre et je m'impatientais de la longueur de la guerre. Cependant que je grandissais envers et contre l'occupant, envers et contre cette guerre. La rivière me faisait toujours bien plaisir à voir. Un jour, un soldat allemand vint à la pharmacie se faire panser sa main brûlée. Nous étions seuls, tous deux, dans la pharmacie. Je lui pansais sa main, comme on m'avait appris. Dans la haine. L'ennemi remercia. Il revint. Mon père était là et me demanda de m'en occuper. Je pansais sa main une nouvelle fois en présence de mon père. Je ne levais pas les yeux sur lui comme on m'avait appris. Cependant, le soir de ce jour, une lassitude particulière me vint de la guerre. Je le dis à mon père. Il ne me répondit pas. Je jouais du piano. Puis nous avons éteint. Il m'a demandé de fermer les volets. Sur la place, un jeune Allemand à la main pansée était adossé à un arbre. Je le reconnus dans le noir à cause de la tache blanche que faisait sa main dans l'ombre. Ce fut mon père qui referma la fenêtre. Je sus qu'un homme m'avait écouté jouer du piano pour la première fois de ma vie.
C'était « Les évidences nocturnes, notes sur Nevers » de Marguerite Duras. Lecture par Valérie Lang, une réalisation de Jacques Taroni. Vous écoutez France Culture, vous pouvez retrouver « Les yeux verts » et « Les évidences nocturnes » sur l'application Radio France et franceculture.fr. Et dimanche prochain à 20h, une autre soirée consacrée à Marguerite Duras avec India Song, créée pour la radio en 1974 par Marguerite Duras elle-même, accompagnée d'une équipe de réalisation un an avant la sortie du film. Prochain rendez-vous avec la fiction demain lundi dans le feuilleton « Des ailes de mouette noire, portrait en miroir » de Frida Kahlo. Dans quelques instants, ce sera la série musicale. Bonne soirée sur France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Culture Monde, c'est chaque semaine une thématique de l'actualité internationale, une semaine pour appréhender un sujet de société ou de politique étrangère depuis différents pays ou régions du monde.
Julie Gacon.
Le patrimoine des États au service de leur puissance, les dissidents du climat de par le monde, le rapport des partis d'extrême droite à leur histoire, que nous disent les expériences étrangères ?
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les Russes nous influencent-ils électroniquement parlant ?
Guillaume Erner.
On en parle ce lundi dans Les Matins.
Les Matins de France Culture, demain à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. La chercheuse en sciences cognitives Barbara Tillman nous fait découvrir comment le cerveau traite la musique et comment la musique permet de stimuler le cerveau.
Lorsque vous entendez une musique, cela peut évoquer un sentiment de familiarité grâce à ces nombreuses musiques stockées en mémoire.
Votre cerveau, saison 10, Les pouvoirs de la musique. Réalisation Charlotte Roux, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, tout de suite, la série musicale, Zoé Sfez.
Boum, pande bidete film bangi doga tamale, neo japon te damay rap souf si de tramale, epuma fansé, epuma ki depute assemble.
Qui nous font swinguer. Que du pur son, on appelle l'unicité. Que du puissant lyrics dans la dignité.
Bekona Angiridas, Bolegi de Konyana, Yano Koyane, Yam, Aladjudu.